Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde. Qui aurait cru qu'en 2020, une discussion sur le livre susciterait autant de passion? Non, mais c'est vrai, on peut penser ce qu'on veut de tout le brouhaha autour de l'affaire de l'Association des libraires qui a censuré donc cette liste de lecture du premier ministre François Legault, qui a tapé sur les doigts, en fait, de tous ces militants qui étaient offusqués que Monsieur Legault ait recommandé un livre de mon ami Mathieu Bock-Côté. On peut penser ce qu'on veut de cette histoire-là, mais avouez quand même que d'observer ça, c'est assez fascinant. De se dire qu'à cette époque numérique, à cette époque technologique d'intelligence artificielle, le livre et les discussions autour du livre puissent susciter autant de passion. Moi, j'avoue que quand je prends un pas de recul, ça me fait quand même plaisir. Je me dis, on est en train d'assister à une mobilisation populaire autour d'un objet culturel. Certains auraient pu dire, ah ben là, c'est le 20e siècle, c'est vieillot, c'est ringard, c'est dépassé le livre. Plus personne s'intéresse à ça. La seule chose que les gens achètent, c'est des livres de recettes de Ricardo puis de Marilou trois fois par jour. Ben non, les amis, un essai d'un intellectuel québécois est en train de soulever les passions. Et c'est quasiment comme à l'époque de la compétition entre le Canadien puis les Nordiques. C'est quand même hallucinant. On ne peut qu'applaudir quand on est comme moi, chroniqueuse culturelle, de se dire « Hey, waouh, les amis, vous parlez avec votre cœur pour votre défense du droit à la lecture des livres qui sont considérés comme dangereux par certains, essentiels par d'autres. » Moi, quand je vois ça, toute cette discussion autour des livres, je pousse un grand « Ben voyons donc! »
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Tous les mardis, on parle avec le collaborateur du jour, Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur à Cube Radio, et il nous parle de ce qui se passe en France et plus largement en Europe. Et aujourd'hui, je vous avoue que je suis super triste parce qu'une auteure, compositeur, interprète que j'adore, Anne Sylvestre, est décédée aujourd'hui. Anne Sylvestre, c'est vraiment une femme qui a été extrêmement importante pour le mouvement féministe, et une de ses chansons les plus connues, Une sorcière comme les autres, qui avait d'ailleurs été reprise par Pauline Julien. On en écoute un petit extrait avant d'en parler avec mon ami Christian.
Vous m'avez aimé, putain, et couverte de satin, vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue, quand j'étais vieille et trop laide, et vous me jetiez au rebut, vous me refusiez votre aide, quand je ne vous servais plus, quand j'étais belle et soumise.
Et c'était raide cette chanson-là, et vraiment une immortelle d'Anne Sylvestre. Bonjour Christian.
Bonjour Sophie.
Anne Sylvestre, c'est un monument de la chanson, et c'est particulier parce que bon, il y a évidemment toutes ces chansons là pour adultes, et puis aussi Anne Sylvestre, c'était les Fabulettes, des chansons absolument extraordinaires pour les enfants. Mon fils a été élevé en écoutant les Fabulettes d'Anne Sylvestre. Comment
le
les gens ont
aussi
réagi? Ah, le tien aussi, Christian. Oui.
Oui, le mien aussi.
Alors, comment les
écoutez,
et comment les gens ont réagi en France?
Écoutez, ouais. J'écoutais les paroles d'une sorcière comme les autres. Ça fait remonter, je sais pas, toute l'ambiance d'une époque, de la grande, je dirais, ce que j'appellerais, moi, la grande époque du féminisme.
En effet.
Les années 80, 70, 80. Anne Sylvestre, c'était une chanteuse discrète. Qui travaillait comme un artisan ses textes, qui faisait un peu toujours la même chanson, hein, mais de toute façon les
c'est
grands
vrai,
auteurs
c'est vrai,
font
Christian.
Toujours la même chanson, et les grands romanciers écrivent toujours le même roman, alors c'est pas un problème, et qui vous l'avez dit a fait des chansons pour enfants dès les années 60, qui sont des chefs-d'œuvre qui sont des chefs-d'œuvre.
J'ai des frissons.
Je dis à tout le monde, allez acheter ça pour vos enfants, faites écouter ça à vos enfants. C'est une école de la langue française, c'est d'une beauté sublime et c'est extrêmement traditionnel comme texte, mais c'est d'une beauté absolument incroyable. Et Anne Sylvestre, c'est celle qui, au moment où, vous savez, la carrière de Pauline Julien n'allait pas très bien, a fait deux grands spectacles avec elle, hein, Une sorcière comme les autres, Gémeaux croisés, que moi j'avais vu. C'était de toute beauté de voir deux femmes en pleine possession.
Deux passionnariats.
Deux passionnariats de chacune de leur côté, deux féministes, et d'un féministe, vous savez, sublime, un féministe qui n'était pas revanchard. Je trouve que les féministes d'aujourd'hui devraient réécouter les chansons d'Anne Sylvestre, réécouter les chansons de Pauline Julien. Ça vous donne le goût d'être féministe, ça, alors qu'aujourd'hui, des fois, les féministes vous donnent pas trop le goût de l'être. Et je trouve que c'est...
Vous allez encore vous faire des amis aujourd'hui. Vous allez encore vous faire des amis aujourd'hui, Christian.
Peut-être.
Bon, c'est pas grave.
Anne Sylvestre.
Absolument.
Anne Sylvestre.
Et c'est intéressant parce que vous avez tout à fait raison. C'est quelqu'un qui vraiment ciselait ses chansons comme un orfèvre. Et c'était vraiment ce qu'on peut appeler une chanteuse engagée. Donc oui, une défense du féminisme, mais aussi une certaine idée de la justice sociale. Là, c'était vraiment quelqu'un de et avec une petite voix toute douce et mais
absolument.
Des chansons très revendicatrices. Alors écoutez, pour se faire plaisir et pour faire découvrir peut-être aux gens qui connaissent pas l'œuvre pour enfants d'Anne Sylvestre, on se fait plaisir, Christian. Ballon balançoire d'Anne Sylvestre.
Oh, quelle merveille.
Ballon balançoire, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut parmi les oiseaux.
Ballon balançoire, belle.
Merci à Sébastien Laperrière qui l'a trouvé vite. Écoutez, c'est bête, Christian, ça me fait venir des larmes aux yeux. Il y a tellement...
Oui,
et c'est là qu'on se rend compte de l'importance des chansons, de la musique dans notre vie.
Oui.
Il suffit d'entendre quelques
des
notes.
Des mots, une musique simple, hein, une petite musique simple. Anne Sylvestre, avec ça, tout simplement, sans aller chercher les guitares électriques, les synthétiseurs, tous les moyens du showbiz, sans ça, elle faisait des petits chefs-d'œuvre qui vont rester, hein, qu'on va réécouter. Écoutez, je vous garantis n'importe quoi que dans 50 ans, il y a des enfants qui vont encore écouter des chansons d'Anne Sylvestre. J'en suis convaincu.
Absolument. Ben alors, je voulais absolument qu'on commence cette émission en lui rendant hommage. Donc, au revoir, Anne Sylvestre. Donc, née le 20 juin 1934. Donc, ça lui fait 86 ans quand même, un âge respectable. Donc, merci pour vos chansons, Madame Sylvestre. Christian, il faut absolument parler de tout ce débat sur la sécurité en France. Écoutez, d'abord, ce producteur de musique tabassé par des policiers et toutes les conséquences de ça. Est-ce que ça va être l'affaire George Floyd de la France?
Écoutez, on verra. C'est peut-être tôt pour le dire. Je ne crois pas parce que c'est un paysage plus contrasté, je vous dirais. Hein. Depuis une semaine, on a assisté à une spirale d'événements. D'abord, il faut dire l'arrière-fond de ça, c'est-à-dire qu'on est en train de discuter à l'Assemblée nationale en France une loi qu'on appelle de sécurité globale, excusez l'anglicisme, hein, le global security, ça fait. Mais une loi étrange, hein, parce que c'est une loi pour protéger les policiers. Imaginez. On discute aujourd'hui d'une loi pour protéger les policiers parce qu'on estime que les policiers sont menacés. Bon, ce débat cause des polémiques, notamment l'article 24 qui est un article qui veut empêcher la rediffusion sur Internet d'images qui pourraient nuire directement à certains policiers, divulguer leur nom, leur adresse par exemple, parce que les policiers subissent ce type de harcèlement. Et donc, dans ce contexte-là, arrivent deux événements, arrive une évacuation musclée de la place de la République où des organisations de migrants ont, pour faire une opération de com, hein, de presse, installé des tentes avec des migrants sur la place de la République, évidemment, tentes qu'il est évident qu'il va falloir les évacuer,
ben,
et qui ont
sûr.
Été évacuées de façon peut-être un peu brutale, et arrive, comme vous le dites, l'affaire Michel Zecler, qui est où un producteur de musique rap se fait tabassé dans l'entrée de son mm-hmm. studio d'enregistrement pendant 10 ou 15 minutes par 3-4 policiers.
Et c'est filmé.
Les policiers ne savaient pas que c'était filmé. Alors les policiers ont fait leur petit rapport un peu sibyllin qui disait pas grand chose. Et puis les images sont sorties. Et évidemment, on s'est aperçu que les policiers étaient dans leur tort. D'ailleurs, ils ont reconnu eux-mêmes avoir porté des coups qui n'étaient pas justifiés. Ils sont aujourd'hui en examen, c'est-à-dire qu'ils sont accusés. Deux n'ont pas eu de libération conditionnelle, sont sous les barreaux actuellement. Et je peux vous dire que ces policiers risquent gros dans les semaines qui viennent. Donc, je vous dirais que toute cette espèce de spirale d'événements ont provoqué une espèce de grand débat sur qu'est-ce que la police, pourquoi on a des policiers, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on attend dans le fond des policiers, parce que je dirais que c'est tout le dilemme qui est posé. Est-ce que le tabassage de Michel Zecler est un événement isolé? Écoutez, la victime elle-même le dit, hein. La victime elle-même, Michel Zecler, est quelqu'un qui dit: moi, j'ai des amis policiers.
Oui, ça, alors, c'est très intéressant.
Non, c'est pas tout.
Je suis tellement content que vous se leviez ça. Oui. Et c'est important parce qu'il l'a fait. Il a été invité à l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna et c'était estomacant. Vraiment, sincèrement, cet homme qui a été tabassé par des policiers déclare devant tout le monde en disant: évidemment, je blâme ces policiers-là, mais il prend lui-même la peine de dire: il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même panier. Et ça, écoutez, c'est quand même rarissime qu'on entende ce genre de propos-là. Et Cyril Hanouna, qui est pourtant pas quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur, renchérit en disant: oui, moi aussi, j'ai plein de potes policiers. Et autrement dit, c'est le principe de: c'est pas parce qu'il y a une pomme pourrie qu'il faut considérer qu'il faut mettre le feu au verger. Et mais quel homme exemplaire quand même, cet homme
tout à
qui...
Tout à fait. C'est d'une grande honnêteté, je dirais, de sa part, d'avoir dit ça, parce que je vous dirais que depuis un certain nombre de mois en France, c'est vrai qu'on a constaté des violences policières, mais on constate un phénomène étonnant qui est les violences à l'égard des policiers et sur les policiers.
Oui.
Alors, on a un peu parfois l'impression d'avoir changé de monde, hein. Vous savez, dans les années 60-70, CRSSS, les affreux policiers qui tabassaient.
Attendez, vous allez trop vite. Christian, vous allez trop vite parce que vous utilisez un vocabulaire que peut-être tout le monde connaît pas. Donc, quand on disait CRSSS, c'est bon que les CRS, c'est un petit peu comme les SWAT teams ici au Québec.
Absolument.
En fait, c'est les forces...
C'est la brigade anti-émeute.
Voilà. Donc, CRS, voilà. SS, c'est ça qu'on dit, en fait. On compare à des SS.
Ce sont des mots d'ordre traditionnels, je dirais, dans les manifestations de gauche. Oui. Mais on se retrouve aujourd'hui dans des situations où ce sont les policiers qui sont tabassés et qui sont blessés. Samedi dernier, il y a eu 130 000 personnes à peu près dans les rues dans plusieurs villes de France, 98 policiers blessés.
Imaginez. Oui, et là aussi, il y a des images.
Presque une centaine de policiers blessés, certains carrément presque lynchés, pris à partie par des manifestants, des black blocs, là, visiblement. Et donc, on est dans une situation où aujourd'hui, imaginez, on est obligé de faire une loi pour protéger les policiers. Normalement, dans une société normale, on protège la population. Les policiers appliquent la loi, mais on met des limites à ça pour protéger la population. Et là, on est obligé aujourd'hui de chercher des moyens législatifs pour que les policiers soient mieux protégés, parce que ces policiers-là, ils sont très souvent menacés. Vous savez, en France, c'est 15 000 blessés par année, 20-25 morts en service et 50 suicides par année. chez les policiers. Ça se compare à ce qu'on peut retrouver chez les agriculteurs, par exemple. Vous savez,
oui,
il y a
c'est
beaucoup
vrai.
De suicides chez les agriculteurs, parce que c'est souvent des situations très désespérées. Mais les policiers vivent de plus en plus ce genre de situation. Et on a l'impression d'être dans une société qui a viré bout pour bout, quelque part, qui a changé un peu de nature et où il faut effectivement, et où les policiers sont souvent menacés et sont souvent, je dirais, abandonnés à eux-mêmes, c'est-à-dire ne sachant pas ce qu'ils doivent faire et ce qu'on attend d'eux. En France, moi, je vois régulièrement des... Bon, les policiers, traditionnellement, en France, vous savez, vous demandent de vous identifier s'il y a une situation un peu oui. conflictuelle dans laquelle ils doivent intervenir. Et on voit de plus en plus des refus de s'identifier.
Ah,
des gens
oui.
qui se sauvent, par exemple.
Oui, il faut spécifier.
Des gens qui disent... Oui.
Il faut spécifier aussi, Christian, pour tout le monde qui nous écoute, qu'en France, on est obligé d'avoir toujours, en tout temps, sur soi une carte d'identité, ce qui n'est absolument pas le cas au Québec. C'est une carte d'identité nationale.
C'est ça.
Oui,
c'est
voilà.
Ça.
Mais si on circule dans la rue.
Si on est dans une voiture, on n'est pas obligé de s'identifier, oui.
Voilà. Si on circule dans la rue, alors qu'en France, il y a une carte d'identité nationale qu'on doit tous posséder quand on est sur le territoire français.
Absolument. Et c'est l'habitude, hein. Ça n'arrive pas très souvent.
Oui, c'est des contrôles de routine.
Arrive, les gens sont très habitués, sont tout à fait habitués à ça. Mais on assiste de plus en plus à des formes, je vous dirais, de rébellion où le policier vous demande de vous identifier. Les jeunes, souvent ce sont des jeunes d'ailleurs, se sauvent, refusent de s'identifier, traitent les policiers de racistes. Et donc, une sorte de situation absolument conflictuelle. J'ai vu ça plusieurs fois, moi, dans le métro, par exemple, où j'étais quelque part admiratif du calme, du caractère posé des policiers qui, se faisant insulter, conservaient leur calme et demeuraient posés. Et donc, on voit de plus en plus ce genre de situation auquel les policiers ne semblent pas visiblement préparés. Écoutez, prenez le cas des manifestations. Comme journaliste, vous vous doutez que des manifestations, j'en ai fait un certain nombre dans ma vie, puis dans pas mal de pays, autant au Québec qu'en France. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus. À certaines époques, on allait manifester avec ses enfants, en famille pratiquement. Les manifestations du 1er mai, c'était des choses presque c'était
une tradition,
c'était presque familiale. Hein? On était là. Oui, c'était presque une fête. Je vous dis qu'aujourd'hui, les manifestations, ce n'est plus ça du tout. D'abord, je prends dans une ville comme Paris où souvent les milieux populaires sont plus à Paris, donc il y a moins de monde dans les manifestations. Souvent, ce sont essentiellement des militants qui vont manifester et ça se termine toujours par de la casse, par des casseurs, des black blocs qui débarquent armés de barres de fer. Je peux vous dire qu'on n'amène pas ses enfants aujourd'hui à Paris dans des manifestations du 1er mai alors qu'on le faisait il y a à peine 10 ans. Mmh. Je vois bien le mouvement, c'est évidemment européen, c'est évidemment français, mais on voit même au Québec aujourd'hui des manifestations qui se terminent de manière violente alors qu'on voyait jamais ça auparavant. Donc, il y a quelque chose qui a changé, là. Il y a une autorité policière, une autorité qui n'existe plus. On a l'impression que les policiers
ont
fait le prix, je crois.
Oui, non. Alors ça brasse en France. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Christian Rioux, donc correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur à Cube Radio, et merci aussi d'avoir rendu hommage, un hommage ému de parents émus à Anne Sylvestre qui nous a quittés aujourd'hui.
Absolument.
Merci beaucoup, Christian. À la semaine prochaine.
Merci infiniment. Au revoir.
Merci, Christian.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
C'est une humoriste qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. C'est une fille qui a du front tout le tour de la tête et je pense que c'est peut-être la première bonne nouvelle de 2020. Cathy Gauthier va remonter sur scène en 2021 avec un spectacle classique. Elle est au bout de la ligne. Cathy Gauthier, bonjour.
Allô, Sophie, mon Dieu, merci, t'es donc gentille.
Ben, écoute, je me sens très à l'aise de te dire que c'est la seule bonne nouvelle de 2020 parce que il y a quelqu'un sur Twitter qui a écrit ça à ton sujet quand t'as annoncé que tu revenais en spectacle. Alors je me dis, je reflète sûrement une partie du sentiment populaire de savoir que tu vas revenir sur scène. Cathy, quand tu as annoncé ça, tu nous as, les gens qui s'occupent de toi ont envoyé un communiqué avec une photo de toi. Écoute, va, va, voum, les cheveux blonds ondulés. On a l'impression que tu ressembles, écoute, à Marilyn Monroe, méchant pétard. Cathy Gauthier?
Ben, mon Dieu, merci beaucoup, mais je te cacherai pas que j'ai pas l'air de ça quand je me réveille le matin, là.
Non!
J'ai fait d'ouvrage après ça, ma petite fille. C'est beaucoup de maquillage et de préparation. Oui. Il y avait une équipe derrière moi pour me rendre aussi, justement, pénible. Mais oui, je suis très contente aussi du résultat. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est mon meilleur poster, c'est mon meilleur visuel. Ça faisait longtemps que j'avais en tête là Cathy Gauthier classique avec la calligraphie de Coca-Cola. Fait que je trouve que le rendu est bien quand même.
Oui, mais c'est intéressant aussi que t'ailles sur ce côté-là très vamp, très glamour, très sexy. Là, j'utilise que des mots anglais, mais parce que à une certaine époque, il y a des gens qui te reprochaient aussi d'être plus une fille, avec son franc-parler, très direct, très cru. Et je trouve que c'est très amusant justement d'aller avec une image très classique, très classe, justement pour défaire un peu peut-être cette image-là. Est-ce que je me trompe?
Ben c'est sûr qu'avec les années, puis mes autres spectacles, c'est sûr que mon premier spectacle, Vache folle, avait donné un ton très corrosif mon personnage. Et puis, le costume n'aidait pas non plus. Ça, j'en ai parlé souvent lors d'entrevues. Le costume était justement trop décolleté. Il y avait trop de c'était cru à tous les niveaux. C'est sûr que mon premier spectacle, si j'avais eu comme costume un col roulé, les gens auraient eu une perception différente de moi. Je pense qu'on se serait plus attardé au texte qu'à ce que j'avais l'air, tu sais. Mais c'est sûr qu'avec les années, mon personnage a évolué. J'ai tenté, tu sais, de peaufiner aussi mon écriture, d'améliorer mon style. Là, je suis rendue à mon quatrième show. Je suis rendue ailleurs. J'ai plus d'expérience. Mais je garde quand même encore ce côté-là très cru, mais ça passe mieux. On dirait que les choses se disent de façon plus fluide avec ce spectacle-là. Et pourtant, je tiens des propos qui sont complètement grinçants et éclatants quand même. Mais ça passe mieux. Je ne sais pas si c'est parce que les gens se sont habitués à mon style ou maintenant, il y a d'autres humoristes aussi, femmes, qui abordent ce style-là. Alors peut-être que justement, c'est ça, j'ai plus d'expérience, fait que je suis capable d'arrêter, je pense, avant de traverser la ligne.
Mm-hmm, je comprends, tout à fait. C'est très intéressant comme réflexion. Tu dis que ton prochain spectacle, donc, on va voir en octobre 2021 à Montréal et à Québec, il va continuer à être grinçant et décapant. Quand tu regardes la société, quand tu regardes les derniers mois qu'on a vécu au Québec, qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te rend justement grinçante? Qu'est-ce qui t'énerve? De quoi tu as envie de nous parler pour nous brasser la cage au Québec?
Ben en fait, dans ce spectacle-là, pour l'instant, le spectacle n'est pas encore fini d'écrire parce que moi, j'écris vraiment par le biais du rodage. C'est-à-dire que je fais un spectacle, après je retourne à mes textes, j'enlève ce qui n'a pas marché, j'améliore ce qui a bien fonctionné. Fait que c'est vraiment un travail work in progress, là, en bon québécois.
Alors, fait qu'on va le savoir on va le savoir en août ou en septembre 2021, plus c'est quoi le contenu du spectacle?
Ben, je sais déjà, c'est-à-dire que là, j'ai déjà à peu près à 40 minutes de truc qui fonctionne super bien, que j'ai plus vraiment besoin de retoucher. Et à ça, va s'amalgamer d'autres thèmes. Mais c'est ça, l'affaire, c'est la façon dont j'écris pas des numéros en tant que tels. Tu sais, mes spectacles, c'est comme des longs monologues de 90 minutes. Et puis, tous les gags, c'est ça, c'est comme, tu sais, je pars d'une ligne, puis après ça, tout se greffe autour de ça pour former un grand, grand monologue. C'est pour ça que des fois, on me demande, viens dans mon gala juste pour rire, faire un numéro. Je suis pas bonne pour faire un numéro, je suis pas bonne pour extraire un bout mon spectacle. Tu sais, c'est comme si tu me disais, viens faire un bout de ton film. Tu sais, ça marche pas. Je peux te raconter un bout, mais tu peux le voir dans l'intégralité pour comprendre l'ensemble de tout. Bref, mais ceci dit, je peux répondre à ta question. Il y a plein d'affaires qui m'agressent présentement. comme par exemple cette semaine, le premier ministre qui a vu sa liste se faire retirer parce que une poignée de personnes ont chialé. Ça, je suis plus capable de voir à quel point on s'aplatit devant 3-4 chialeux sur les réseaux sociaux qui disent « ben moi, j'aime pas ça », puis là, faut s'excuser, puis « hey, 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 ça va faire, là ». Non, moi, dans mon spectacle, je dis ce que je pense, puis j'y vais avec ça, puis si t'aimes pas ça, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut-tu avoir un débat de société, puis argumenter, puis ça m'énerve, si je pense que dans la réalité, toutes les réponses là, à toutes les questions, puis... Donc, c'est ça. Non, ça, je t'aboute, puis tu sais, je t'en parle, je suis en train de me pomper.
Je te comprends, je te comprends. J'allais quasiment dire que tu faisais une montée de lait. Petit jeu de mots subtil entre maman ici, parce que dans le communiqué qu'on a reçu pour annoncer ton spectacle, tu dis, et je cite, « Dans les 4 dernières années, j'ai passé à travers un accouchement, une dépression, puis une pandémie. Je suis pas tuable. J'adore ça. » Donc, l'accouchement, tu nous en parles si tu veux. Mais la dépression, je trouve ça très important et très courageux de ta part d'en parler de façon aussi claire. Pourquoi c'était important pour toi d'écrire ça? L'accouchement, la dépression puis la pandémie?
Ben, en fait, c'est juste un petit clin d'œil là, pour le communiquer parce que ben, tu vois, c'était la première d'ailleurs à qui j'avais confié avoir fait une dépression postpartum à toi et Richard lors d'un entretien qu'on avait eu. Mais ouais, c'est ça, je fais un petit clin d'œil à ça dans mon spectacle, mais pas trop, j'en parle, mais de façon très subtile, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant, mais là, à force d'en parler partout dans les médias, c'est la porte-parole de la dépression, mais je trouve ça important, pareil, d'en parler un petit peu sans tomber là, dans un numéro là trop, c'est ça, là, tu sais, je veux pas aller là-dedans, mais je veux juste essayer de dédramatiser ça, puis parler du fait que, tu sais, moi, ma famille, ils croient pas à ça, là. C'est comme, tu sais, ils méprisent, là. C'est comme, je me suis fait vraiment beaucoup juger par ma propre famille, tu sais, parce que moi,
t'es sérieuse,
ouvrier, où, tu sais, tout le monde se lève, puis, tu sais, ma mère, elle est comme, ben là, tu te lèves le matin, puis, batte-toi les fesses, puis, let's go, tu sais, mais oui, je veux bien, mais c'est pas de même, ça marche, là, tu sais. Fait que je parle un peu de ça, du fait que les gens comprennent pas trop c'est quoi cette ben, la souffrance, entre guillemets, là, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui souffrent plus que ça, là. Mais en fait, qui souffrent plus que moi, j'ai souffert pendant ce temps-là parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, je reste quand même quelqu'un de très privilégié. Je suis accompagnée, je suis entourée, tu sais, je veux dire, je peux pas vraiment me plaindre. Mais bref, tout ça pour dire que oui, j'en parle un peu de façon un peu sarcastique avec un petit sourire en coin. Mais sinon, tu sais, j'aborde la maternité aussi, mais tu sais, je raconte pas mon accouchement en tant que tel, là, je raconte plus. Quand tu reviens chez vous avec ton bébé, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est un peu comme d'aller à la loto, là. Tu sais, tu le sais que t'es millionnaire, mais tu sais pas par où commencer. Là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est le fait que ça a vraiment beaucoup changé ma vie, tu sais, avoir un enfant après 40 ans, je sais pas, ma mère me l'avait dit. Pense-y, fille, parce que c'est pas facile. Puis moi, je me disais, ben non, ça va être facile, justement. Tu sais, je suis entourée, j'ai tout ce que je veux, il n'y aura pas de problème, mais dans les faits, tu sais, moi, je suis habituée, là, de. C'est ça. Je vais aller dans un 5 à 7, je ramasse ma sacoche, puis je vais, puis j'ai pas de responsabilité à part mon petit nombril. Mais là, mon nombril, il a pris le bord, c'était plus moi, là. C'était ma fille, ma fille, ma fille. Puis je pense que justement, c'est ça. C'est de cette façon-là que je veux aborder le sujet aussi, du fait que je me suis trop investie, là, dans le sens que j'étais ça comme une ninja, là. Tu sais, je pensais que ma fille était en danger de mort à 14h24, puis je dormais pas parce que je la regardais dormir. Puis là, mon chum me disait « Dors! » J'étais comme « Ben non, je peux pas, tu sais, faut que je la surveille. »
D'un coup, qu'il arrive quelque chose.
Oui, d'un coup, qu'il arrive quelque chose dans son berceau. Mais c'est ça, je trouve ma poule, puis je suis très... En fait, je suis devenue les parents que j'haïssais avant d'avoir des enfants.
Ah, c'est bien dit, oui.
Pas capable de dire non, là, puis moi, je me disais, ma fille, là, tu sais, elle va manger bio, puis elle va... Hey, ma fille, elle en mange des bonbons, là, puis elle pleure le matin. Ah, OK, fine, j'achète la paix. Écoute, je suis une mère totalement nickel. Je me fais mener par le bout du nez par un enfant de 2 ans.
Écoute, c'est très drôle.
Je me trouve misérable par moment, mais bon, je l'aime tellement. C'est fou.
Mais c'est important ce dont tu parles parce que moi, je trouve que on dit pas assez aux femmes à quel point notre vie va changer. Pis on, tu sais, il y a comme cette idéalisation de la maternité. C'est donc formidable. C'est le septième ciel. Oui, il y a évidemment tous ces côtés-là qui sont présents. Mais je trouve qu'on dit pas assez aux femmes à quel point ça peut être difficile. Puis écoute, la dépression postpartum. Je regardais l'autre jour un documentaire sur Lady Di, Diana Spencer, à cause de la série The Crown. Écoute, méchant. Tu sais, t'as beau vivre dans un palais avec des lustres en or partout. Tu sais, quand tu te retrouves tout seul avec ton enfant, là, c'est des moments difficiles. Donc, je te trouve très courageuse et je trouve ça formidable que tu en parles. Cathy, je veux absolument qu'on parle de quelque chose. Parce que depuis le début de la pandémie, évidemment, ça a frappé de plein fouet tous les arts vivants. Comment toi, t'as fait face à tout ça? Parce que là, on parle de faire un spectacle, écoute, octobre 2021, c'est loin, là, c'est dans un petit peu moins d'un an. Comment on fait quand on aime ça, faire rire les gens, puis qu'on peut plus monter sur scène?
Ouais, ben ça, c'est sûr que moi, ça me rentrait dedans, là, écoute, ça n'a pas été le fun, vraiment, là, parce que j'étais partie. Là, moi, j'avais des dates à tout finir. Je faisais 3-4 spectacles par semaine de rodage, tout ça. Puis là, soudainement, ben c'est comme faire un face-à-face avec un train. Là, je veux dire, là, tout s'arrête. Tout est sur la glace pour l'instant. Puis moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être sur scène. J'ai besoin de cette adrénaline-là. Je pense que ça aussi, ça avait contribué un peu à ce que je forme un peu en dépression, dans le sens que l'adrénaline, c'est une drogue naturelle que ton corps te donne. Là, t'sais. Fait que du jour au lendemain, quand t'en as plus, c'est sûr que là, j'avais besoin là, d'un fixe. T'sais. Mais puis en plus, de plus pouvoir voir mes amis, t'sais, là, je me sentais vraiment comme en prison, là, on va se le dire. Là. Mais c'est pour ça que là, j'ai annoncé le spectacle en me disant, garde, advienne que pourra, là, parce que là, j'ai l'impression que cet été, les gens, là, on va être déconfinés, là, parce que même si on dit qu'on n'est pas en confinement, on va arrêter de se mentir, on est totalement en confinement.
Mais c'est
là,
sûr.
Les commerces sont ouverts, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, avec l'été, après ça, des jours d'espérer que le vaccin va finalement arriver un jour, puis qu'il va être efficace, puis tout ça. Puis j'ai l'impression qu'on va revivre les années folles, tu sais. C'est comme si on était un peu en temps de guerre, là, pour l'instant. Puis après ça, ben là, je me dis, les gens vont tellement avoir envie de sortir. T'sais, même moi qui ne traite pas tant aller voir des shows de musique puis tout ça, là, j'ai hâte, t'sais, j'ai hâte d'aller voir la F, j'ai hâte de sortir, de voir des shows. C'est ça, fait que j'ai l'impression que je serai pas la seule dans cet état-là et que plusieurs personnes ben seront au rendez-vous quand les spectacles pourront reprendre. Puis pas juste les spectacles, mais les restaurants. J'ai l'impression qu'on va avoir un boom là, quand ça va. On va pouvoir enfin ressortir de chez nous puis mettre notre beau linge puis aller dans
le... Oui, ben c'est un beau linge comme la belle robe noire avec que tu portes sur la photo. Quand tu regardes ça, justement, la pandémie, toi, t'es humoriste, donc évidemment, tu regardes n'importe quelle situation puis tu lui trouves un côté humoristique. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans la pandémie?
Hey boy, ce qui est drôle, il y a des affaires qui s'écrivent toutes seules, là, parce que j'anime un gala aussi le 15 janvier prochain à Comédie à Québec, puis on s'est inspiré de la Santé publique de la Colombie-Britannique qui proposait de faire l'amour avec un glory hole. Et là, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Alors,
explique.
Premièrement, on l'explique. C'est un panneau avec un trou dedans là, pour insérer ce qu'on sait. Alors, tu sais, je veux dire, ça s'invente pas. Là, je veux dire, faire l'amour avec un masque. Vraiment, là, vraiment. Écoute, fait que je ris un peu des mesures démesurées parce que je trouve que oui, c'est important de prendre des mesures, mais faut pas venir fou non plus. Là. fait que je ris un peu de ça. Puis la pandémie en tant que telle, la COVID, ça, j'ai l'impression que les gens sont tellement écœurés d'en entendre parler. On va évidemment en parler parce qu'on n'a pas le choix. Là, mais moi, dans mon spectacle, j'en parle pas. Là, c'est mon spectacle. Là,
ben non.
C'est ça. Tu peux venir. Il n'y a pas de pinot. Il n'y a pas de COVID, fait que...
c'est bon! Ah, ça, c'est bon! Pour les gens qui sont allergiques aux arachides ou qui sont allergiques à la COVID, c'est très bon, ça, c'est comme une mise en garde pour les gens qui sont allergiques. Mais t'as tout à fait raison. Écoute, on est tellement écœurés, puis en plus rendu en octobre 2021, on va tellement avoir envie de mettre ça derrière nous, on sera juste plus capable d'entendre parler de ça. Écoute, Cathy, moi, ouais, j'ai très hâte de te voir sur scène en chair et en os. Donc, le 15 janvier, le spectacle avec Comédia, donc évidemment, ça va être sur les médias sociaux.
Ça, pour vrai, je le sais pas. La seule affaire que je sais, c'est qu'il n'y aura personne dans la salle, puis ça me décourage, il n'y a pas de mots pour te le dire. Mais oui, j'ai l'impression que grâce à la technologie, je ne sais pas comment ça va fonctionner, si les gens vont pouvoir acheter le gala, tout ça. Ça, c'est peut-être avec Comédia qu'il va falloir voir ça sur leur site. Moi, je suis pas tant au courant. Moi, de toute façon, je suis tellement pas technologie. On me demande souvent de faire des spectacles virtuels, puis je dis non, pas parce que je veux pas, mais que je sais pas comment.
C'est très drôle.
De me brancher, c'est impossible. J'ai 150 ans. Et pas justement nul avec tout ce qui est médias sociaux, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que oui, il y aura peut-être des gens qui vont pouvoir acheter le gala puis pour le voir en direct le soir même. Mais moi, là, je sais que quand je vais faire mon show, ma tournée classique, là, il va y avoir du monde dans la salle, j'espère. Puis
sûrement. Ça, moi, c'est, puis c'est tu sais quoi? Qui me nourrit. Et tu sais quoi, on s'est tellement fait dire toute l'année d'acheter local, le panier bleu, le panier bleu, le panier bleu. Ben écoute, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut mettre sous le sapin, c'est d'acheter dès aujourd'hui des billets pour un spectacle qui aura lieu en octobre 2021 à Montréal et à Québec. Et ben écoute, on n'arrête pas de se plaindre depuis le vendredi 13 mars que justement on s'ennuie de nos artistes. Mais la meilleure façon de les appuyer, c'est justement en achetant des billets dès aujourd'hui pour des spectacles qui auront lieu l'année prochaine. Donc, ben, j'encourage tout le monde à acheter des billets. Voilà, pour toi. Puis, écoute, je suis quasiment ton agent, moi.
Ben, écoute, ben, merci beaucoup. Puis, ben, pour la première à Montréal, c'est sûr que Richard et toi, vous allez t'inviter. Et puis, ben, d'ici là, portez-vous bien, vous deux. Passez joyeux temps des fêtes. Puis,
c'est super. Merci beaucoup, Cathy Gauthier, dont le spectacle classique sera présenté, donc, octobre 2021. Parce que oui, à un moment donné, on va s'en sortir de cette pandémie-là. Oui, à un moment donné, on va parler d'autre chose que de COVID 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Et que les hasards de la vie sont parfois surprenants et parfois délicieux. Aujourd'hui, 1er décembre, on apprend que le spectacle « Nos droits et libertés » de Guy Nantel sort en DVD. Ben, ça tombe bien, c'est Noël qui approche. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous le procurer. Mais pourquoi ça tombe bien que ça arrive aujourd'hui? Ben parce que de quoi on parle depuis 48 heures? De droits et de libertés? Avec toute cette histoire de l'Association des libraires du Québec qui a décidé de censurer rien de moins que le premier ministre du Québec. On va en parler avec, donc, l'auteur de ce spectacle-là, Guy Nantel. Bonjour!
Bonjour Sophie, c'est un grand plaisir dans ce contexte de te parler. J'en peux plus, je te dis, là, je suis à bout.
Ok, ben vas-y.
J'ai plus aucune patience avec quelque forme de censure que ce soit. Et non seulement j'ai plus de patience avec ça, mais je ne pardonne même pas à des gens qui le font puis qui s'en excusent après, particulièrement quand c'est des libraires. Parce que là, ils s'excusent puis ils disent qu'ils n'auraient pas dû, puis c'est une gaffe. C'est sûr que c'est facile de jouer cette carte-là. Parce que ce que tu fais, c'est que tu censures tout, ce qui ne fait pas ton affaire. Puis quand le tollé est plus grand sur la réaction de la censure que de la censure elle-même, là, tu t'excuses. Tu comprends, tu es toujours gagnant des deux bords. Dans le fond, tu prends le moins pire. Et ça démontre tout le côté, tout le côté pleut, tout le côté lâche de la société dans laquelle on vit présentement, où il n'y a plus personne qui est capable de se tenir debout. Puis dire, gars, nous autres, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on a à vendre. C'est ça qu'on a à dire. Si vous n'êtes pas content, allez ailleurs. Et c'est ça que l'association aurait dû faire. Mais l'association, c'est un exemple parmi tant d'autres. On en voit tous les jours. On a vu juste hier, c'était Greenpeace Québec qui a fait un... Je sais pas si tu l'as vu passer. Là, c'était une sortie sur
le racisme.
La fragilité blanche qui est incapable de reconnaître que les Blancs, c'est des racistes, dans le fond.
C'est quoi le rapport avec Greenpeace?
Ben exactement, ils sont supposés s'occuper d'environnement. Amnesty International fait la même chose. Les schtroumpfs noirs qui sont rendus des schtroumpfs mauves pour pas choquer. Tout ce qui est Disney C'est la même chose. Je suis en train d'écrire un livre présentement sur ça, qui risque de s'appeler « Le livre offensant ». Puis,
c'est un scoop que tu nous donnes là.
Oui, oui, c'est un scoop. Je suis en train de faire ça parce que j'ai plus de spectacle et de politique. Et c'est un bonheur. Là. Je t'ai dit, j'écris le livre. Là. J'en jouis tellement que c'est une époque complètement ridicule. Et c'est parce qu'on le dit souvent, mais quand tu écris un livre, tu fais la nomenclature. Donc, tu les as tout enchaînés les uns après les autres. Puis tu dis, écoute, là, ça c'est rendu surréaliste. Puis j'entends des gens de gauche radicale qui font comme, voyons donc, c'est des cas d'exception. T'es obligé d'en éliminer tellement il y en a, là. Puis je te parle pas des affaires qui sont arrivées il y a 20 ans, là. Je te parle des trucs qui sont tout récents. Alors, ça suffit. Non, je sais plus quoi penser de ça, mais on vit dans une société qui va faire rire d'elle dans quelques décennies ou je sais pas quand, mais qu'on verra comme une période de grande noirceur.
Mais tu dis c'est une période qui va faire rire d'elle dans quelques années, peut-être, mais il reste qu'aujourd'hui, on rit pas, parce que cette culture-là du bannissement, qui est vraiment la meilleure traduction là du cancel culture, cette culture du bannissement fait taire des gens. Je pense à la prof de l'Université d'Ottawa, a toujours bien été suspendue. Après ça, elle a été l'objet d'une cabale. Après ça, quand c'est rendu que c'est le premier ministre de ta province dont on n'enterre les suggestions de lecture. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste, oh, ben, tu sais, dans un monde surréaliste, là, où, c'est pas dans l'abstrait, c'est dans le concret. Il y a des gens, écoute, qui, moi, m'écrivent et me disent, Madame Durocher, vous devriez perdre votre job, on va écrire au conseil d'administration de Québécois que vous perdiez votre job.
Mais ça gâche des vies, là, je veux dire, carrément. Je veux dire, il y a des divorces à cause de ça, il y a des congédiements à cause de ça, il y a des faillites à cause de ça. Et c'est la raison pour laquelle on se moquera de cette période ridicule, de la même raison où autrefois, quelqu'un qui parlait contre l'Église catholique était ostracisé, puis était sorti carrément de la communauté. Tu sais, je veux dire, le refus global... a fallu que ces gens-là aillent vivre aux États-Unis puis en France là pour échapper au Québec.
Foudre,
puis comme on est une petite communauté au Québec, on est une petite société, ben évidemment on paye encore plus le prix de ça parce que c'est plus difficile de créer des petites sociétés parallèles où tu peux te retrouver parmi les tiens. Moi, je me souviens, puis je me souviendrai toute ma vie, tu sais, j'en parle justement dans le livre, je reviens sur l'histoire que j'avais vécue dans la saga avec
Alice
Marquette. À part toi, Richard Martineau, Mike Ward et Jean-François Mercier, il n'y a personne, là, aucune personnalité publique, et on s'entend, là, des menaces de mort. Quelqu'un qui a été incarcéré pendant 4 mois et demi, que c'est le groupe d'intervention tactique qui a défoncé son appartement parce qu'il était armé jusqu'aux dents, qui avait une collection d'articles de Mark Lépine puis de Kim Virgil et tout ça. Et personne réagissait à ça. C'est pas que je vais en faire un cas personnel là, sur mon ego, mais ça donne
ça
quand même...
Ça dit quelque chose.
Ben,
ça dit quelque chose.
C'est énorme. Tu dis, il y a quand même des centaines de personnalités publiques en ce moment qui se disent des grands penseurs, des grands défenseurs de la liberté et personne ou à peu près réagit. Puis tout le monde est tétanisé par rapport à quelques groupes groupuscule qui, soit dit en passant, c'est une époque encore plus ridicule qu'à l'époque de la religion catholique, parce qu'à l'époque où la religion catholique faisait ça, la censure dans l'histoire, ça a toujours été exercée par des gens qui avaient un réel pouvoir quand même, un pouvoir qui était, ça pouvait être l'Inquisition par rapport à, tu pouvais te faire exécuter, on pouvait te mettre en prison, ça pouvait être un pouvoir financier. Mais aujourd'hui, les gens qui censurent ont aucun pouvoir.
C'est des tigres de papier. Ce sont des tigres de papier.
C'est ça. Ils ont aucun pouvoir réel à part t'envoyer une coupe d'insultes. Je sais pas moi, quelques centaines de personnes qui sont sur une page Facebook, qui s'envoient toute l'information puis qui t'écrivent des bêtises, mais la beauté de la chose, et tu sais de quoi je parle, c'est qu'un coup que t'en vis 2-3, après ça, ça n'a plus aucun effet, là. Je veux dire, tu peux m'en envoyer à tous les jours, on est blindé par rapport à ça. Mais les gens qui le vivent pour la première fois, eux autres, c'est une catastrophe dans leur vie, puis ils ont vraiment l'impression que tout va s'effondrer, mais évidemment, il faut se tenir debout, puis il faut résister à ça.
Oui. Alors, écoute, je vais te lire parce que tout le monde se demandait depuis le début, ben c'est qui cette gang-là là, de gens là qui ont fait de la pression sur l'Association des libraires du Québec, pas nécessairement en leur demandant de retirer la liste, mais en disant pourquoi vous avez tendu un micro au premier ministre François Legault. Alors, écoute. Il y a un auteur qui s'appelle Nicolas Dawson qui a publié une lettre sur un site féministe. Il a écrit une lettre à l'Association des libraires et il demande que l'Association des libraires s'excuse d'avoir tendu le micro à François Legault. Alors écoute, c'est hallucinant, je t'enverrai cette lettre-là, je vais la mettre de toute façon sur mes médias sociaux. Il explique que lui, il considérait que l'Association des libraires, c'était un safe space où des gens pouvaient s'exprimer librement. Donc, il dit, ben, comment ça se fait que vous avez permis au loup d'entrer dans la bergerie? Comment ça se fait que vous avez permis à François Legault d'entrer dans notre safe space? Et en plus, il reproche à François Legault d'avoir non seulement recommandé le livre de Mathieu Bock-Côté, mais celui de Denise Bombardier. Sais-tu pourquoi? Il dit, non. Deux personnes connues pour avoir tenu des propos racistes, antiféministes, transphobes et homophobes. Mais on est rendu là, la petite police est rendue là.
Mais tu vois, moi, je pense qu'une autre chose qui devrait avoir lieu, et tant qu'à jouer au jeu de la censure, c'est qu'il y a des gens maintenant qui revendiquent comme cette personne-là et qui portent carrément des accusations qui sont criminelles. Et on ne les poursuit jamais. Moi, je vois des gens qui se font écrire qui sont des agresseurs sexuels, qui sont des racistes. Et un jour viendra où ces gens-là qui se font accuser là, vont s'engager un avocat mm-hmm. et les personnes vont devoir... Parce que la liberté d'expression, là, elle a des limites. Et les limites, ouais. C'est normal qu'elles existent.
La diffamation.
Mais ce sont des limites qui sont soit dans le code civil ou soit dans le code criminel. Donc, une incitation à la haine, de la diffamation, atteinte à la réputation, des trucs comme ça. Ça, c'est ce que ces gens-là sont en train de faire. Et eux, on les laisse faire, mais si toi, tu ne contreviens pas à ces lois-là et tu fais juste donner ton opinion sur quelque chose, toi, tu dois fermer ta gueule. Ça n'a aucun sens d'accepter okay. ce renversement-là de paradigme par rapport à qu'est-ce que c'est que mm-hmm. la liberté d'expression.
OK, alors je vais te donner un exemple. Puis là, tu disais tout à l'heure, tu voulais pas le ramener à toi, mais on n'a pas le choix non plus, toi et moi, quand on se fait attaquer, d'en parler aussi publiquement, parce qu'à un moment donné, ça suffit, se taire. Alors, la semaine dernière, j'ai écrit dans une chronique à propos de Lionel Carman, ministre de la Santé, donc d'origine haïtienne, qui était allé à Tout le monde en parle, et qui, malgré l'insistance très lourde de Guy Lepage, ne voulait pas reconnaître le mot « systémique » dans le mot pour qualifier le racisme. Il y a un humoriste québécois, lui aussi d'origine haïtienne, qui s'appelle Renzel Dashington,
qui a fait une vidéo.
Juste pour expliquer pour les auditeurs, parce que c'est la première fois que j'en parle à Cube Radio de cette histoire-là. Alors, il a fait une vidéo dans laquelle il traite Lionel Carman de noir de service. Moi, j'ai écrit une chronique dans le Journal de Montréal en disant, ben, Monsieur Dashington n'est pas d'accord avec Lionel Carman. Au lieu de débattre avec lui, il le traite de noir de service. Qu'est-ce qu'il a fait, Renzel Dashington, quand il a vu ma chronique? Il a enregistré une vidéo d'une vulgarité sans nom où il s'en prend à Richard Martineau en disant « Sophie, comment ça se fait que tu sors avec ce gars-là? Il est pas beau. Pourquoi tu parles des Noirs et des Arabes? Est-ce que c'est parce que tu te réveilles la nuit puis tu rêves de coucher avec des Noirs et des Arabes? Moi, tous mes amis qui sont Noirs et Arabes refuseraient de coucher avec toi parce que t'es folle. » Et le silence... Personne n'a pris ma défense. Penelope McQuaid, qui fait des documentaires sur les trolls, sur le harcèlement des femmes, silence. Mm-hmm. Léa Clermont-Dion, silence. Rima El-Khoury, silence. Toutes ces femmes-là, qui normalement se porteraient à la défense d'une femme qui est victime d'un harcèlement à caractère sexuel, ben, elles se taisent. Elles ne disent pas un mot. Ben, c'est ça le Québec en 2020. Excuse-moi, là, je fais une montée de lait, mais
c'est une,
je suis capable.
Mais c'est parce que c'est une réalité aussi à deux vitesses. Parce que moi, si je fais la comparaison avec ce garçon-là, puis je la fais parce que tu me dis que c'est un humoriste, donc c'est le même métier que... Ouais. Non, mais je le connaissais pas, c'est pas pour excuser le gars, mais je connaissais pas. Mais, tu sais, moi, quand je fais ce métier-là, je le fais dans un contexte clair où les gens qui sont dans la salle comprennent que c'est un personnage de scène, qu'on exagère des propos, qu'on déconne, qu'on... Bon, tu sais, Mais malgré tout ça, là, quand j'ai fait une tournée qui aura duré un peu plus que 3 ans, des centaines de représentations, non seulement c'est jamais arrivé dans les propos que j'ai tenus que qui que ce soit qui assiste au spectacle, puis toi, tu l'as vu, ce spectacle-là,
oui.
Jamais, jamais, je te jure, là, puis je rencontre le monde, moi, le public, à la fin de chacune des représentations, là, il n'y a pas eu une seule personne qui m'a attendu pour venir me dire « Wow, j'ai entendu ce que tu as dit par rapport à l'histoire de Alice Paquette, c'est dégueulasse tout ça. » Et non seulement, j'ai jamais eu ce type de propos-là, mais très, très souvent, des gens m'ont dit « Cette valeur que tu l'aies coupé, le bout qui était scandaleux, parce que moi, j'aurais aimé ça l'entendre. » Je dis « Ben non, vous l'avez entendu. »
J'ai rien coupé.
Et on me dit « C'était ça. » Alors, je fais le parallèle entre les deux, où dans un contexte d'humour concret, là, où les gens sont tous conscients de ce qu'ils s'en vont voir, tu tiens des propos, le centième de ça, là, c'est pas de l'incitation à la haine, c'est rien, dans le fond, c'est du vent. Et là, il se crée une espèce de tempête artificielle autour de toi, puis je dis artificielle parce que c'est tout créé par des gens qui n'ont pas vu le spectacle et qui viendront pas le voir, hein, surtout pas. Il y a même des humoristes qui ont dit publiquement « Je n'ai pas besoin de voir ce spectacle-là pour dire que ça devrait être interdit. » Bravo.
C'est effrayant.
Et donc, t'entends ça, puis tu dis « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à qui? » Puis après ça, ben sur des médias sociaux, où là, le contexte est plutôt flou, on se permet de dire à peu près n'importe quoi de impunément. Puis j'ai beaucoup de misère à comprendre l'époque dans laquelle on vit présentement, parce que c'est comme s'il y a toujours un a priori. Il y a des gens qui ont le droit de tout dire, même dans un contexte très sérieux, et des trucs qui frôlent carrément la criminalité, alors qu'il y en a d'autres qui font juste leur travail normal, genre professeur d'université qui utilise ce mot-là dans un contexte d'enseignement, genre un humoriste qui fait un spectacle d'humour, puis ça devient interdit, comme l'auteur qui est accusé de pédophilie dans un contexte
ça a aucun d'exception. Sens.
Écoute, ça n'arrête pas.
Fait
que ça devient bien difficile d'avoir des repères dans tout ça, là.
Mais ce que je retiens aussi, c'est quand tu dis des gens qui ont critiqué ton spectacle à l'époque et qu'ils ne l'avaient pas vu, de la même façon que je suis sûre que les gens, une grande partie en tout cas des gens qui ont contacté l'Association des libraires du Québec en disant « c'est scandaleux que François Legault ait recommandé le livre de Mathieu Bock-Côté », ils ne l'ont pas lu. Ils ne l'ont pas lu. Je les mets au défi, ces gens-là, de me dire c'est quoi exactement qu'il y a dans le livre de Mathieu qui dérange autant. Et ce qui est rigolo...
Mais c'est pour ça que je te dis... Oh, excuse-moi de te couper, vas-y.
Non, vas-y. Non, mais c'est parce que je te dis
un a priori, là...
Oui!
Il y a un a priori. Moi, je me souviens, là, j'avais parlé de ça avec Richard Martineau à un moment donné. Je lui disais, moi, là, des gens qui détestent Richard Martineau, j'ai aucun problème avec ça. C'est comme des gens qui détestent Guy Nantel. Vraiment, je te jure, là, aucun problème avec ça. Mais... moi, j'avais eu quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit, moi, Richard Martineau, là, je trouve que c'est un ci, je trouve que c'est un ça, je trouve que c'est un ça. Puis je dis, mais tu fais allusion à quoi exactement? Et la personne m'a dit, à rien, je le lis jamais. Je le lis jamais.
C'est génial. On va se quitter là-dessus, Guy. On va se quitter là-dessus, parce que c'est tout le temps. Mais c'est génial.
Bon. Non, écoute, mais c'est révélateur, dans le fond.
Qu'est-ce que t'en penses?
Quand il y a le nom Richard Martineau, je le déteste. Et le contraire est vrai, à l'inverse, pour d'autres personnes qui sont toujours adorées, peu importe ce qui sort de leur bouche. Voilà.
Exactement. Puis on n'a pas besoin de nommer le nom, on sait très bien de qui on parle. Donc, je note quand même que tu es en train d'écrire un livre pour parler de tout ça et que ça va s'appeler, c'est un scoop ici à Cube Radio, Le Livre Offensant. J'adore le titre. Si jamais tu changes le titre, ben tu m'appelleras pour me le dire. Merci beaucoup, Guy Nantel. Puis je rappelle quand même, donc c'était l'occasion quand même de te parler aujourd'hui, le DVD du spectacle Nos droits et libertés qui sort aujourd'hui. Donc, tiens, une autre suggestion. Tout à l'heure, je suggérais aux gens d'acheter des billets pour Cathy Gauthier. Donc, achetez donc le DVD de Guy. Et puis, comme ça, si vous voulez critiquer son spectacle, au moins, vous saurez de quoi vous parler. Merci beaucoup, Guy.
C'est bien dit. Merci. À bientôt.
Merci. Au revoir. Ben, c'est comme ça que ça se termine aujourd'hui pour l'émission. Merci à Sébastien Laperrière, qui est le metteur en onde le plus rapide sur la gâchette. Tu sais, je parle de quelque chose, puis là, paf, dans la seconde, Sébastien m'envoie un petit message en disant « Sophie, je suis prête, je peux te le faire jouer ». Alors, je le remercie bien bas, et puis Hugo Veilleux à la recherche, aussi très rapide sur la gâchette. Merci beaucoup d'être là, puis merci de continuer à appuyer des gens qui pensent différemment du petit banc de poissons, du petit banc de moutons. Ça fait plaisir de vous avoir comme auditeur, comme auditrice. Merci beaucoup, puis à demain. We'll be right back.
Cube Radio.